À ce moment-là, Julian Assange s'avance en homme libre sous quelques applaudissements.
Sécurité nationale, liberté de la presse, diplomatie. L'affaire Julian Assange a soulevé de nombreuses questions. Le fondateur de Wikileaks, âgé maintenant de 52 ans, il en aura 53 le mercredi 3 juillet, a retrouvé la liberté à la suite d'un accord de plaider coupable passé avec la justice américaine. Aussi, je vous propose de revenir sur l'histoire de Wikileaks, sur sa figure, Julian Assange, et sur l'impact que l'un et l'autre ont eu sur la transparence, le droit à l'information et le journalisme dans son ensemble. Salut, c'est Steven Jambeau, vous écoutez l'Atelier des médias de RFI. C'est une émission qui dure 20 minutes à la radio et dont on vous propose chaque semaine une version longue en podcast.
RFI.
Pour discuter de Wikileaks et de Julian Assange, je reçois un journaliste de la cellule enquête du magazine français Télérama. Bonjour Olivier Tesquet.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Plutôt pas mal, merci pour l'invitation. Je crois que la dernière fois que je suis venu ici, c'était il y a très 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 longtemps. Mais c'est possible que ça ait déjà été pour parler de Wikileaks.
Effectivement, c'était avec Ziad Malouf vers les années 2011-2013, quelque chose comme ça.
Dans ces eaux-là, ouais.
Il y a bientôt 15 ans, Olivier, tu publiais Comprendre Wikileaks, aussi disponible sous le titre La véritable histoire de Wikileaks. En 2020, tu co-signais aussi avec Guillaume Ledy le livre Dans la tête de Julian Assange aux éditions Actes Sud. Et en quatrième de couverture de ce dernier livre, on pouvait lire « Comme les histoires d'amour, celles des lanceurs d'alerte finissent mal, en général. Cette fin plutôt heureuse pour Julian Assange t'a-t-elle surpris ?»
Alors je pense que comme tout le monde, j'ai été assez surpris, oui, en découvrant au réveil que Julian Assange allait être libéré, parce que on était parti plutôt sur un round judiciaire supplémentaire au Royaume-Uni dans cette longue bataille contre son extradition vers les États-Unis, où en gros, alors on va pas rentrer dans le détail parce que sinon on va bouffer toute l'émission à parler de ça, mais la justice britannique, c'était un pas en avant, deux pas en arrière. Il avait obtenu le droit de former un appel pour contester son extradition. Donc on était voilà dans cette espèce de tambour de machine à laver comme ça où il n'y avait pas de procès sur le fond, mais on était encore suspendu à cette décision-là. Et déjà c'était plutôt une victoire qu'il puisse contester formellement son extradition. Donc je pensais qu'on allait suivre cette voie-là.
Ça devait intervenir début juillet.
Alors ça devait intervenir début juillet, mais on a pris l'habitude avec la longue, très longue procédure de Julian Assange que ça se chiffre plus en années qu'en mois. Et donc c'est vrai que voilà. On a tous été un peu pris de court par ces négociations qui ont donc eu lieu en coulisses et qui ont abouti sur sa libération. Alors, libération, on reviendra dessus parce que c'est pas non plus Julian Assange qui a été innocenté, relaxé, il a été condamné. C'est quand même l'un des éléments importants de ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'il y a une condamnation qui équivaut au temps qu'il a déjà passé en prison au Royaume-Uni, mais qui existe.
On va rembobiner ensemble l'histoire, puisque Wikileaks et son cofondateur, Julian Assange, dès son lancement en 2006, a fasciné le monde de l'information. Peux-tu nous rappeler le contexte et les débuts de ce projet ?
Oui, parce que Wikileaks arrive... Alors, je pense que vraiment l'acte de naissance médiatique de Wikileaks, ça a été 2009, avec la publication de cette vidéo qui s'appelle Collateral Murder, où on voit un hélicoptère Apache de l'armée américaine, en 2007, tuer plusieurs civils, dont deux journalistes de l'agence Reuters.
À Bagdad, en Irak.
Voilà, et... À l'époque, c'est la première fois que voilà Wikileaks arrive comme ça dans le paysage médiatique. Jusqu'alors, c'était ce petit site d'information. Je savais pas trop ce que c'était. Moi, je me souviens, stagiaire au service international de l'Express en 2009, suivant des zones du monde sur lesquelles on n'avait pas forcément les yeux braqués. Je me souviens, par exemple, à cette époque-là, ça chauffait de nouveau avec les tigres tamouls au Sri Lanka. Et il y avait ce site qui publiait des documents confidentiels. Bon, voilà, ça avait l'air intéressant, mais c'était quand même très largement sous le radar avec Collateral Murder, qui est une production maison, hein. Ça a été monté en Islande, dans le secret, avec d'autres activistes de la transparence, du droit à l'information, etc. Là, Wikileaks fait un peu irruption dans le paysage. Je pense que c'est aussi ça qui va leur permettre ensuite de se rapprocher de grands médias pour la publication des grandes fuites de 2010 qu'on a connues, donc les rapports de guerre afghans, les rapports de guerre irakiens et les télégrammes diplomatiques, révélations qui sont faites de concert avec le New York Times aux États-Unis, le Guardian au Royaume-Uni, le Spiegel en Allemagne, le Monde en France, El País en Espagne, etc. Donc à ce moment-là, ça crédibilise évidemment Wikileaks, parce que tout à coup, c'est plus cette espèce de plateforme bizarroïde de hackers venus d'on ne sait où, c'est le nouveau partenaire, le nouvel entrant qui fait basculer quelque part le journalisme dans un nouveau monde, parce que cette coopération entre grands médias internationaux, en manipulant de grandes quantités de données, c'est assez inédit à ce moment-là.
Ce qui est inédit aussi, c'est le fait d'avoir donc cette plateforme, ce site Wikileaks, et qui contient une boîte à lettres sécurisée permettant à tout lanceur d'alerte de transmettre des documents confidentiel, de faire des fuites, donc des leaks en anglais.
Oui, parce que aujourd'hui, on a tendance à considérer de manière un peu impropre que Julian Assange est lui-même un lanceur d'alerte. Alors, il est devenu, par son destin judiciaire ces dernières années, le symbole, justement, un peu des lanceurs d'alerte. Mais à la base, Wikileaks, c'est surtout un facilitateur de lanceurs d'alerte. D'ailleurs, le slogan de la plateforme, dès le début, c'est « Courage is contagious », le courage est contagieux. Donc c'est « Venez à nous, envoyez-nous vos informations. Nous avons mis en place une plateforme extrêmement sécurisée qui ne vous trahira pas, qui garantira votre anonymat et grâce à laquelle on va pouvoir rééquilibrer cette balance qui obéit... voilà, c'est le logiciel politique de Julian Assange qui est « Transparence pour les puissants ». Vie privée pour les petits.
Et dès le début, il y a cette figure donc, de Julian Assange, un Australien tombé très jeune dans l'informatique, et puis qui est féru de mathématiques, de Shakespeare, de plein de choses, et qui a un savoir-faire assez unique qu'il met au service d'une cause.
Oui, c'est quelqu'un qui a été condamné pour hacking quand il était jeune, dans les années 90. Donc, il vient de ce milieu-là, du milieu où on trafiquait les lignes téléphoniques, ce genre de choses. Tout le folklore un peu des hackers des années 80-90. Tu mentionnais les mathématiques, je pense que c'est très important pour comprendre la philosophie politique de Julian Assange, parce que c'est quelqu'un qui a une vision très mathématique du monde. Tout ce qui s'est passé par la suite, que ce soit les grandes fuites en coopération avec les grands médias de 2010, ou que ce soit ce qui est beaucoup plus contesté et contestable, qui est l'attitude qu'il a eu pendant la campagne présidentielle américaine de 2016 avec la publication d'emails confidentiels, enfin d'emails piratés surtout,
du
Parti démocrate américain. En fait, tout ça avait été assez conceptualisé. Quand on a écrit le livre avec Guillaume, on s'est replongé dans les archives, dans tout ce qu'a produit Julian Assange, et avant notamment Wikileaks, et avant que Wikileaks prenne cette taille-là. Et il y avait un texte notamment de 2006 qui s'appelait « La conspiration comme mode de gouvernement ». C'était « Conspiracy as Governance » en anglais. Et dans laquelle, en fait, de manière très prescience, finalement, il évoque quasiment mot pour mot ce qui se passera des années plus tard. C'est-à-dire, il dit, imaginez une situation où les communications d'un des deux grands partis américains, le Parti républicain ou le Parti démocrate, seraient révélées. Et évidemment, ça aurait pour effet d'affaiblir considérablement le parti visé au profit de l'autre.
Trump s'en est servi, d'ailleurs, contre Hillary Clinton.
Trump s'en est évidemment servi. Bon, Trump a toujours oscillé, c'est-à-dire que à la veille de son élection, c'était I love Wikileaks, et puis finalement, c'est quand même son administration qui a matérialisé les poursuites contre lui. Donc, tout ça est à pondérer, comme souvent avec Trump. Mais la vision mathématique du monde d'Assange, c'est que le pouvoir, notamment le pouvoir dans les grandes démocraties libérales, est exercé de manière injuste et de manière cachée, et qu'il faut rééquilibrer quelque part la balance en rendant visibles ces mécanismes cachés, en garantissant aux citoyens l'anonymat et la protection pour le faire. C'est son logiciel un peu crypto-anarchiste de rééquilibrage assez radical, ce qui évidemment va provoquer aussi des tensions avec les grands médias, parce que les grands médias, le droit à l'information, oui, mais une vision aussi radicale, entre guillemets, de la transparence, pour des médias installés, ça va pas forcément de soi.
Avec le recul, on a l'impression que Wikileaks a principalement visé ou mis à jour des dysfonctionnements américains. Or, la plateforme Wikileaks a révélé des choses sur plusieurs pays à travers le monde, et pas que les États-Unis.
Oui, d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, les premières fuites de Wikileaks concernaient des pays qui étaient d'ailleurs plutôt sous le radar. Il y avait le Kenya, je mentionnais le Sri Lanka, mais on pourrait en citer plein d'autres. Il y avait eu des fuites sur l'Islande, au moment de la crise financière, notamment de 2008. Voilà, il y avait plein de petits pays comme ça, ce qui obéissait quand même aussi à une autre dimension importante de la philosophie politique d'Assange, qui est un altermondialisme, ou un anti-mondialisme, ou un anti-impérialisme, lui aussi très inscrit dans les années 80-90, dans lequel les États-Unis sont un ennemi. Enfin, les États-Unis sont l'incarnation de cet impérialisme-là. C'est les guerres en Irak, c'est les grands sommets du G7, c'est un peu quand même le l'âge d'or, y compris parfois assez violent, de l'anti-impérialisme et de l'altermondialisme. Et après, si on revient sur cette vision mathématique du monde, à un moment, Julian Assange, qui résonne en hacker, va aller aussi vers là où c'est le plus facile de rentrer, là où les défenses sont les plus faibles. Or, qu'est-ce qui a permis à Wikileaks de révéler autant d'informations sur les États-Unis, c'est qu'il y a une source, Chelsea Manning, une analyste de l'armée américaine, qui leur a transmis des centaines de milliers de documents confidentiels auxquels elle avait accès.
Voilà, on ne peut pas parler de l'affaire Assange sans parler de Chelsea Manning.
Voilà, qui est la source, qui avait été condamnée à 35 ans de prison, peine qui a été commuée par Barack Obama à la fin de son mandat. Mais la réalité, c'est qu'aux États-Unis, vous avez plus d'un million de personnes qui ont des accréditations secret défense, à des niveaux divers. Et donc, dans un pays où il y a autant de gens qui ont accès à des informations classifiées, bah en fait, le problème, c'est que la fuite, c'est pas de savoir si elle va arriver. Le problème, c'est de savoir quand elle va arriver. Et donc, quelque part, Assange est venu exploiter cette faille. Et je dis exploiter cette faille pour reprendre une terminologie du piratage informatique, parce que les États-Unis prêtaient plus le flanc que d'autres régimes ou d'autres pays qui sont peut-être un peu plus étanches en la matière.
Il y a aussi eu toute cette phase de Julian Assange dont on se souvient qu'il était reclus au sein de l'ambassade de l'Équateur à Londres. Un premier moment pour lui, effectivement, de réclusion avant de se retrouver en prison.
Oui, alors faut se rappeler les conditions dans lesquelles il est entré dans cette ambassade. Donc il y entre à l'été 2012, si je ne dis pas de bêtises, parce que enfin, la chronologie devient un peu compliquée à suivre.
C'était en 2012,
effectivement. C'était en 2012. Et en fait, à cette époque-là, on sent que la pression se rapproche, notamment les télégrammes diplomatiques, plus que les rapports de guerre afghans et irakiens, ont vraiment provoqué la grande colère des États-Unis. À ce moment-là, on a quand même des déclarations extrêmement violentes de responsables politiques américains qui appelle pour certains même à l'élimination physique de Julian Assange, envoyer un drone et puis on n'en parle plus. Et à ce moment-là, il est visé par une affaire de mœurs en Suède. Deux femmes l'accusent d'agression sexuelle, de viol par surprise, pour reprendre la terminologie de la justice suédoise. Et Julian Assange, dès le début, estime, alors je dis ça vraiment de manière très froide, sans prendre parti pour qui que ce soit, estime que c'est un pot de miel, estime que c'est un piège, et que c'est un piège destiné à l'extrader ensuite vers les États-Unis. Donc il y a un mandat d'arrêt qui est émis. Et à ce moment-là, alors il est déjà hébergé dans le manoir d'un riche ami qui soutient la presse, qui a un petit club de la presse à Londres, qui s'appelle le Frontline Club. Et voilà, sous le coup de ce mandat d'arrêt, Julian Assange décide de se réfugier dans l'enceinte de l'ambassade d'Équateur à Londres.
Alors, et d'y demander l'asile, d'ailleurs.
Et d'y demander l'asile. Alors, pourquoi l'ambassade d'Équateur à Londres? C'est pas non plus complètement un hasard. C'est-à-dire, là, de nouveau, on est dans ce logiciel assez anti-impérialiste où il va vers un pays bolivarien d'Amérique du Sud, pas aligné avec les États-Unis, qui va se faire un plaisir, justement, de l'accueillir.
Et qui n'a pas d'accord d'extradition.
Et qui n'a pas d'accord d'extradition. Donc, il va rester reclus dans
7 ans
dans cette ambassade, dans une petite pièce. Il voit pas beaucoup la lumière du jour. Il est placé sous surveillance, qui d'ailleurs, à un moment, au Royaume-Uni, ça commence à poser problème, parce que tout ça coûte de l'argent et que ça se fait aux frais du contribuable. Et que, bon, au bout d'un moment, ça commence à bien faire. L'ONU, enfin, le rapporteur spécial sur la torture, estimera que c'est une détention arbitraire. Il est à la fois... Il reçoit la visite de plein de gens, y compris des célébrités qui viennent le voir.
Il répond à des interviews.
Il répond à des
interviews.
Il a accès
à Internet encore à cette époque-là.
Il a encore une vie civique. Il fait tourner encore un peu la boutique, entre guillemets. C'est-à-dire que Wikileaks n'est plus au niveau de l'année 2010 ou 2011, mais ça continue quand même à avoir plus ou moins une existence.
Wikileaks avait publié des choses sur la Syrie, par exemple, à cette époque-là.
Il y a eu des fuites qui ont eu moins d'impact. Qui était peut-être moins professionnel dans le sens où il y avait pas de, elles étaient pas en coopération avec des grands médias parce que la situation était un peu différente, mais qui ont quand même continué à exister. À ce moment-là, il est aussi placé sous une surveillance assez intense des autorités américaines. On l'a appris des années plus tard qu'une entreprise espagnole avait été missionnée par la CIA notamment pour l'écouter à l'intérieur de l'ambassade, y compris écouter les échanges avec son équipe de défense, avec les invités qu'il recevait, etc. Donc on voit qu'il était évidemment, ce qui surprendra personne, parce qu'en fait, à ce moment-là, on sait que depuis 2010, les États-Unis ont demandé à un grand jury de plancher sur un acte d'accusation. Donc, un grand jury aux États-Unis travaille dans le secret, accumule un certain nombre d'informations dans le but de, à un moment, formaliser un acte d'accusation contre Assange, ce qui interviendra beaucoup plus tard. Finalement, l'acte d'accusation, il arrivera quasiment 10 ans plus tard, puisque
en 2019.
Voilà, le moment un peu clé, c'est que Il y a un changement à la tête de l'Équateur, un nouveau président qui est élu, qui s'appelle Lénine Moreno et qui, malgré son prénom, est beaucoup moins bolivarien que son prédécesseur et qui, en plus, est en conflit avec Assange, qui l'accuse de lui savonner un peu la planche et de lui chercher des poux dans la tête, de colporter tout un tas d'accusations, de corruption, etc. Donc, il commence par lui couper Internet en se disant, comme ça, il arrêtera de m'embêter. Et puis, il finit par dire, écoutez, moi, j'en ai marre. Et il autorise les autorités britanniques à rentrer dans l'ambassade pour arrêter Julian Assange.
Il le déchoit d'abord de sa nationalité équatorienne et donc ensuite, la police britannique.
Et ensuite la police britannique. Et donc on a cette photo ou cette vidéo assez célèbre maintenant où on voit Julian Assange vraiment exfiltré manu militari avec quatre personnes qui le portent dans une fourgonnette où il crie pour dire ce qu'il a à dire à ce moment-là. Et il est incarcéré à la prison de haute sécurité de Belmarsh.
Où il est resté
5 ans. Il est resté grosso modo 5 ans.
À l'isolement, sans internet, avec des conditions de visite vraiment très, 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 très strictes.
Très dures. Bon, en plus, évidemment, il y a eu le Covid au milieu, donc ça a une espèce de double réclusion quand même à ce moment-là. Peu de visites, très peu d'accès à ses avocats, des conditions de respect des droits de la défense qui quand même sont à beaucoup questionner. Et puis il était incarcéré dans une prison qui est la prison où au Royaume-Uni on incarcère les terroristes. Donc il y avait vraiment cette idée quand même de faire un exemple.
Au passage, saluons la mémoire de Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, qui s'est battu pour entrer dans cette prison, pour échanger avec Assange. Ça a été un des combats de sa vie. Il nous a quitté récemment.
Tout à fait. Christophe a beaucoup œuvré avec d'autres ONG pour rappeler des principes assez élémentaires, et notamment le principe assez élémentaire, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Julian Assange, c'est pas la question en fait. On n'est pas là pour débattre si c'est une bonne, une mauvaise personne. La question, c'est que les faits pour lesquels il est poursuivi, enfin il était poursuivi, puisque maintenant on peut conjuguer ça au passé, c'était des faits qui relevaient du journalisme. Parce que c'était les faits de l'année 2010, de la coopération avec les grands médias. Il n'était pas poursuivi pour le piratage des emails du Parti démocrate et pour le rôle qu'il aurait pu jouer dans une ingérence dans la campagne présidentielle américaine de 2016. Peut-être que là, le cas de figure aurait été différent. Mais c'est pas les faits qui étaient visés. Donc on parle sur les faits concernés, et ces faits-là étaient des faits journalistiques, et donc effectivement, RSF, comme Amnesty et d'autres ONG de défense des droits humains et des libertés se sont mobilisés pour lui donner un peu de la visibilité, parce que c'est vrai qu'au moment on le voyait plus en fait dans sa cellule, et d'ailleurs son état de santé se détériorait. Plusieurs examens médicaux qui ont été diligentés dans le cadre de la procédure judiciaire ont estimé qu'il y avait un vrai risque ou de suicide, ou qu'un matin on se réveille et qu'on apprenne que Julian Assange était décédé, ce qui peut d'ailleurs expliquer peut-être la raison pour laquelle des pourparlers ont été engagés, parce que à un moment c'était vraiment devenu une question de vie ou de mort en fait.
RFI.
L'atelier des médias.
Vous écoutez l'atelier des médias de RFI. Mon invité est le journaliste Olivier Tesquet pour revenir sur Wikileaks et l'affaire Julian Assange. Et donc on arrive au début de cette semaine avec cet accord de plaider coupable pour, je cite, « complot pour obtenir et divulguer des informations relevant de la défense nationale ». Il a été condamné à 62 mois de prison, soit exactement ce qu'il a passé dans une prison britannique. Et là, il est concrètement libre. N'est-il plus menacé de rien en termes de poursuite, Julian Assange ? Alors, Olivier Tesquet.
A priori, ça a éteint ça met fin à la procédure. Il peut maintenant demander éventuellement une grâce, un pardon, parce que encore une fois, il a été condamné. Il faut rappeler quand même que avant cet accord de plaider coupable, il y avait 17 chefs d'accusation contre lui au nom d'un texte qui s'appelle l'Espionnage Act, qui date de la Première Guerre mondiale, qui punit les activités anti-américaines, qui est le texte, par exemple, qui a envoyé les époux Rosenberg à la chaise électrique pendant la guerre froide. Donc on voit dans quel environnement on est, et c'est un texte qui a beaucoup beaucoup été utilisé contre les lanceurs d'alerte ces dernières années, particulièrement sous Obama et particulièrement après Wikileaks, parce qu'il y avait une volonté de resserrer la vis, finalement. Et de ces 17 chefs d'accusation, il n'en est plus resté qu'un. Donc, ce que tu mentionnais de complot pour obtenir des informations mettant en danger la sécurité nationale. Et cette procédure de plaider coupable et cette peine de prison qui équivaut à ce qu'il a déjà purgé, c'est un moyen pour les États-Unis aussi de sauver la face, de dire on a obtenu une condamnation, s'en tire pas gratis. Il a passé en tout quand même 12 années en détention. Voilà. Ça permet de... Un peu comme on le voit par ailleurs dans des affaires... moi, je vois en France, quand on a des affaires de terrorisme un peu branlantes, où il n'y a pas grand-chose, bon, ben, finalement, on se retrouve souvent à condamner les gens pour le quantum de la peine qui correspond à au temps qu'ils ont déjà passé en détention provisoire.
Wikileaks, c'est Assange. Et Assange, c'est Wikileaks. Que devient Wikileaks aujourd'hui ?
Bah, Wikileaks ne devient pas grand-chose. Ça a été un...
C'est une coquille vide ou ça n'est plus rien du tout ?
Alors, ce serait dur de dire que c'est pour rien du tout, parce qu'il y a un héritage en plus de Wikileaks. Mais de fait, c'est une coquille un peu vide, ou en tout cas, c'est une structure à l'arrêt, parce que pendant des années, on s'est demandé, il y avait une hyper-personnalisation de Wikileaks, et du coup, la question, c'était de savoir, est-ce que Wikileaks peut exister sans Julian Assange ? Est-ce que Julian Assange accepte que Wikileaks existe sans lui ? Bon, bah, cette question-là, finalement, elle a été tranchée, c'est-à-dire que dès lors que Julian Assange a été empêché, physiquement empêché de faire tourner la boutique, bah, Wikileaks a un peu disparu du paysage. Après, c'est aussi un environnement informationnel dans lequel c'est compliqué d'exister. Il y a eu beaucoup de pressions, que ce soit des pressions politiques, des pressions financières, etc. Donc ça a un peu asséché quelque part aussi la plateforme. Et puis, même si Chelsea Manning n'a pas été confondu à cause d'une mauvaise conception du site, c'est-à-dire que la promesse de confidentialité n'aurait pas été respectée, malheureusement, Chelsea Manning a été confondue parce qu'elle s'est confessée auprès d'un autre hacker qui s'appelait Adrian Lamo, qui est décédé depuis, qui était en réalité un informateur du FBI. Et donc c'est parce qu'elle a l'imprudence de trop se confier à cet individu-là qu'elle a été arrêtée et condamnée. Mais c'est vrai que ça, bon, quand on est une plateforme et qu'on ambitionne de révolutionner un peu le journalisme comme ça, etc., c'est vrai que sa source soit condamnée à 35 ans de prison, c'est pas la meilleure des publicités. Quand bien même, c'est, voilà, encore une fois, c'est pas, il y a pas eu de bug dans l'architecture générale du site, mais Wikileaks, et puis ce qui s'est passé ces dernières années aussi, avec effectivement, depuis 2016, on sent que Julian Assange est une personnalité très, très clivante. Et d'ailleurs, le débat autour de sa personnalité, de ses intérêts, ses motivations, etc., l'a bien souvent emporté sur le fond, sur le débat juridique, sur les faits qui étaient visés, et ça agit comme ça, comme un bruit de fond assez parasite qui nous a empêchés de regarder la gravité de la situation.
Parlons un petit peu du legs de Wikileaks. Wikileaks, on le rappelle, a dénoncé la surveillance de masse, la corruption des élites, la fraude fiscale, l'absence de transparence des institutions gouvernementales, les horreurs des guerres, notamment celles menées par les États-Unis, les violations des droits de l'homme dans de très nombreux pays. Et tu le disais au début de cette émission, la presse mondiale et même les médias mainstream ont découvert avec Wikileaks qu'on pouvait changer, révolutionner le journalisme d'investigation avec Internet. Et ça reste.
Oui, complètement. Alors, c'est un héritage, il faut le nuancer parce que c'est un héritage plein de frictions. Mais aujourd'hui, ça va complètement de soi pour des grands médias de travailler en consortiums internationaux, de travailler avec de grands volumes de données. Quand on prend, par exemple, le consortium international des journalistes d'investigation qui a sorti les Panama Papers ou les Pandora Papers et d'autres révélations du même type, non seulement ils travaillent en consortium, mais ils ont embauché des gens dont le métier est précisément de mettre en récit, on va dire, ces différentes données, trouver les outils pour les exploiter, leur donner du sens, les vérifier, etc., etc. Ça, je remarque que c'est quelque chose qui n'existait pas avant Wikileaks. Alors après, on pourra dire c'est l'œuf et la poule, c'est-à-dire que Wikileaks est aussi le produit de son époque. Le fait que Wikileaks ait émergé à ce moment-là n'est pas un hasard. Le début des années 2010, c'est ce moment où, justement, on a une espèce de bascule avec à la fois des centres de pouvoir qui se déplacent vers la chose numérique et puis des outils qui se démocratisent pour à la fois accéder à l'information, exploiter l'information, partager l'information. Et donc, bah forcément, mais ça a joué un rôle de d'accélérateur, je pense, clairement. Aujourd'hui, même si les journalistes ne s'en réclament pas nécessairement, ils n'ont pas d'ailleurs nécessairement à s'en réclamer, mais il y a quand même un héritage qui reste.
Alors justement, ça a façonné aussi ton parcours à toi, Olivier Tesquet, puisqu'en 2010, tu as travaillé dans une rédaction partenaire de Wikileaks, ovni.fr, O-W-N-I.fr. Raconte-nous comment cela se passait à l'époque, concrètement.
Bah nous, on était vraiment au cœur de ça, parce que donc OVNI, c'était pour objet web non identifié. Et en gros, le projet éditorial, c'était, on s'intéressait à l'intersection entre le numérique, la société et le pouvoir. Donc, On était, si on parle de Wikileaks, on était vraiment là au carrefour, à la rencontre de ces différents axes-là. Et en fait, à un moment, Wikileaks nous a contactés en nous disant on a besoin d'un partenaire technique, entre guillemets, pour nous aider à construire la base, enfin, trouver une architecture pour la base de données pour la rendre exploitable, consultable, enfin voilà, qu'on puisse naviguer dedans, retrouver des informations, retrouver tel ou tel rapport. Donc c'était sur l'Irak et sur l'Afghanistan.
Précisons aussi que les serveurs de Wikileaks à cette époque-là étaient en France.
Oui, oui, oui. Et puis il y a eu les serveurs de Wikileaks, ça a toujours été, mais ça fait partie un peu de la légende presque,
oui.
Alors, urbaine ou pas, qui accompagne ce genre de d'aventure. À un moment, Wikileaks a eu ses serveurs de sous une église en Suède, dans une espèce d'énorme, une grosse roche comme ça sous une église. Donc évidemment, tout ça est assez cinématographique. Mais voilà, je crois que ils étaient assez contents de pouvoir trouver un petit partenaire technique. En plus, c'était pas un grand média, c'est-à-dire que nous, on était aussi à 1000 lieues des grandes rédacs qui ont vu arriver Julian Assange et qui ont vu arriver Julian Assange avec un peu de soupçon, un peu de dédain, à se demander est-ce que ce type-là, est-ce que c'est une source ? Est-ce que c'est un autre journaliste ? Lui, c'est toujours conçu comme un rédacteur en chef ou un méta-rédacteur en chef. Inutile de dire que quand il arrivait au New York Times, par exemple, où ça s'est pas très bien passé, on le regardait à la fois un peu comme un ovni, un peu comme un clochard, en se demandant « Non, mais il se prend pour qui, celui-là » Donc nous, on était un peu à l'intersection de ces deux mondes. On était un média formalisé.
Mais en même temps, avec des jeunes qui bidouillaient, qui avaient un savoir-faire.
On avait ce côté un peu pirate aussi, que ce soit dans la pratique... On n'avait pas des hackers à la rédaction, mais on avait des développeurs, etc. Et que ce soit aussi dans la manière dont on appréhendait le métier. Il y avait un petit côté, un petit peu côté jeune punk, on va dire.
Et une culture web.
Et une culture web qui était assez naissante à l'époque. Ouais.
C'est bien de parler d'OVNI.fr. J'invite d'ailleurs tous les étudiants en journalisme et les jeunes journalistes qui nous écoutent à aller voir les archives sur OVNI.fr. Olivier Tesquet, tu l'écrivais dans ton livre avec Guillaume Ledy en 2020. Grâce à Julian Assange, le monde n'est plus tout à fait comme avant. Tu maintiens cette formule ?
Oui, 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 je la maintiens, et y compris, je trouve, encore une fois, avec toutes les nuances que ça implique, c'est-à-dire que quand on parle du leg de Wikileaks, il y a un autre leg important qui est que ça a mis en lumière le sort réservé à tous ceux et toutes celles qui voudraient s'approcher d'un peu trop près des territoires réservés du secret. C'est-à-dire que quand on a des lanceurs d'alerte qui sont poursuivis, alors aux États-Unis, c'est pas des petites poursuites, hein, c'est-à-dire que vous avez encore des lanceurs d'alerte en prison ou qui ont fait de la prison ou qui sont menacés de peine de prison, notamment tous ceux qui travaillent dans le domaine extrêmement large maintenant de la sécurité nationale, parce que ça veut un peu tout et rien dire, a fortiori aux États-Unis depuis le 11 septembre 2001. Et je crois que quelque part, c'était aussi ça l'objectif de Wikileaks. C'était de dire, on va démontrer, en mettant la lumière assez crue comme ça, sur des recoins du pouvoir que le pouvoir ne veut absolument pas voir exposé, bah vous allez voir, il va riposter le pouvoir. Parce que le pouvoir n'aime pas qu'on mette la lumière sur ces allées un peu sombres. Et donc c'est aussi ça l'héritage de Wikileaks. Alors c'est un héritage critique, c'est un héritage dont il faut faire et il faudra faire à mon avis encore assez longtemps l'inventaire. Je pense pas non plus, je vais pas jusqu'à dire que tout ça a été planifié et que la dimension sacrificielle du combat d'Assange, je pense qu'il se serait épargné, hein, 7 ans dans une ambassade et 5 ans dans une prison britannique. Mais c'est aussi du coup quelqu'un qui a passé 12 ans de sa vie pour mettre ça en lumière, et ça me semble pas être quelque chose qu'on peut évacuer d'un revers de la main.
Les États-Unis l'ont encore en travers de la gorge, si l'on peut dire, puisque mercredi, ils ont déclaré que Julian Assange avait mis des personnes en danger en diffusant des milliers de documents confidentiels dans les années 2010. C'est l'occasion de dire que les journalistes et les médias doivent faire preuve de responsabilité, car leurs révélations peuvent effectivement mettre en danger. Pour Wikileaks, eh bien, ça a été documenté qu'il y a certaines personnes sur le terrain qui ont souffert, voire qui ont perdu la vie en raison des révélations. Julian Assange était-il conscient de cela ?
Alors ça fait partie des points sur lesquels il y a une tension entre Assange et son rôle tel qu'il l'envisage et les grands médias. D'ailleurs, quand le Consortium international des journalistes d'investigation sort les Panama Papers, Julian Assange est fumasse parce qu'il estime que ne pas publier l'intégralité des documents, c'est trahir la cause, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est un peu tout ou rien. Il est très maximaliste, mais parce que c'est un militant radical de la transparence, avec cette, voilà, encore une fois, ce corpus crypto-anarchiste, la vision mathématique du monde, etc. C'est pas exactement comme ça que fonctionnent les médias. Donc, il y a toujours eu beaucoup de tensions entre lui et les médias sur le fait de biffer, comme on dit dans le jargon, certains noms, certaines informations. Lui s'en est toujours tenu à cette vision assez radicale, parce que dans son esprit, la moindre concession est vécue comme une trahison. C'est-à-dire que il est aussi avec, pour le meilleur et pour le pire, il est très très idéaliste et très absolutiste dans sa manière de fonctionner. Il estime qu'à partir du moment où il commence à faire un tri, en fait, il tombe du mauvais côté de la barrière. Il tombe dans la pratique du journalisme qu'il n'a eu de cesse de dénoncer. Parce que Wikileaks, c'est aussi... Alors c'est le paradoxe, hein, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé avec les grands médias internationaux tout en étant très critiques de la manière dont les médias fonctionnent. C'est-à-dire que Wikileaks ambitionnait d'être à la fois un média et un outil de critique des médias, un peu dans le même véhicule, entre guillemets.
Peut-on imaginer que Julian Assange, qui au moment où l'on enregistre cette émission est donc de retour chez lui en Australie, reprenne du service ?
Alors pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire. Moi, je me garderais bien de faire un pronostic sur ce qu'il est susceptible de faire, parce que je pense qu'il va d'abord commencer par reprendre un peu des forces, voir sa famille, profiter de ses enfants, enfin, retrouver la vie un peu normale de quelqu'un qui a eu une vie tout sauf normale. Mais en même temps, Julian Assange n'a jamais vraiment eu une vie normale. C'est aussi ça qu'il faut dire, hein. C'est-à-dire qu'il a eu une enfance très particulière avec sa mère à fuir un beau-père violent. Donc il a eu une enfance très itinérante. Et puis ensuite, il a passé une bonne partie de sa vie d'adulte un peu à vivre dans une valise. Donc j'ai un peu de mal à imaginer Julian Assange, même après ses 12 ans de détention, s'arrêter, se garer sur le bord de la route et se dire « Allez, c'est bon, maintenant c'est terminé, je suis rangé des voitures ». Je pense que son combat continuera de s'exprimer, de s'incarner d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ce sera par Wikileaks ? Est-ce que ce sera par un autre moyen ? Ça, je sais pas encore à ce stade, mais je serais pas très surpris quand même que d'une manière ou d'une autre, on continue à l'entendre.
Et pendant 5 ans, il n'avait pas d'ordinateur, il n'avait qu'une machine à écrire dans sa prison britannique. La France a refusé à Julian Assange l'asile politique à plusieurs reprises. Lui n'a jamais caché vouloir vivre en France. Aimerais-tu bien l'accueillir ici ?
Alors déjà, on peut commencer par dire que quand la France a refusé d'accueillir Julian Assange, ça a mis en lumière aussi l'extrême vassalisation, quelque part, de la France par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire que l'un des arguments d'Assange et de son équipe de défense à l'époque, c'était de dire « Mais attendez, regardez, les révélations de Snowden ont démontré que les présidents français depuis Nicolas Sarkozy avaient tous été espionnés par la NSA, donc le renseignement électronique américain. »
C'était en 2015, donc.
C'est quand même un terrible camouflé. Voilà, réaffirmer votre souveraineté en accueillant Julian Assange. Bon, ça n'a pas été une immense surprise de voir la France de François Hollande à l'époque refuser de l'accueillir, dans la mesure où, si on reparle de l'exemple de Snowden, les autorités françaises avaient refusé que l'avion officiel du président bolivien Evo Morales à l'époque survole l'espace aérien français, de crainte que Julian Assange soit dans l'avion. Ce qui n'était pas le cas. C'était le moment où il organisait sa fuite depuis Hong Kong. Alors tous les journalistes réservaient fébrilement qui des sièges dans un avion pour la Havane, qui des sièges dans un avion pour tel ou tel endroit. Bon, au final, il est parti à Moscou. Mais voilà, ce petit signal faible de refuser l'espace aérien parce que il pourrait y avoir un autre individu recherché juste qui survole le pays à des milliers de mètres d'altitude. Bon, ça laisse pas très optimiste quant à l'opportunité d'accueillir Julian Assange.
Tu parlais de Snowden. Parlons-en. Il est toujours coincé en Russie après avoir transmis à la presse internationale des milliers de documents top secrets sur la surveillance de masse. Ce lanceur d'alerte américain, il est toujours à la recherche d'une porte de sortie. On imagine qu'il a vu cet accord de Julian Assange avec la justice américaine. La différence, c'est que la justice américaine contre Snowden veut un procès pour espionnage, et c'est là toute la différence.
Alors, elle voulait un procès pour espionnage pour Assange aussi, hein. Le problème avec Snowden, alors le problème est d'autant plus fort depuis le début de la guerre en Ukraine et l'invasion de la Russie, c'est qu'aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer un canal diplomatique au sujet d'Edward Snowden pour négocier des modalités. On voit déjà que c'est extrêmement compliqué. Si je prends l'exemple très récent du journaliste du Wall Street Journal, Evan Gershkovitch,
qui est
jugé en ce moment en Russie pour espionnage. On l'accuse d'avoir essayé de rassembler des informations qu'il aurait transmises à la CIA. Et en fait, tout ça est un jeu de dupes, parce qu'on sait très bien que c'est juste pour négocier la libération. En plus, les Russes jouent tellement carte sur table que maintenant ils donnent l'identité de la personne qu'ils veulent voir libérer en face. Pour Snowden, j'ai du mal à imaginer que ça puisse se passer de cette manière-là. Je ne sais pas si je serais aussi formel que ça sur le fait qu'il cherche une porte de sortie. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est quand même pas si mal accommodé de sa vie en Russie.
Il a la citoyenneté russe, d'ailleurs, pour ne pas être extradé.
Il a la citoyenneté russe. Voilà, c'est, on a un peu l'impression, tout ça nous rappelle le folklore de la guerre froide, où il y a quelques décennies, on aurait dit qu'il était passé à l'Est, quoi. Alors, sans aller jusque-là, parce qu'en plus, à la différence d'Assange, Snowden a un côté très légitimiste. Quand on lit ses mémoires, on se rend compte, il rappelle qu'il est issu d'une famille où on a toujours exercé des fonctions officielles, de garde-côte, de choses comme ça. Donc, il a une certaine idée de l'État, du devoir de l'État, etc. Et c'est comme ça qu'il justifie ses fuites. Donc, il n'est pas du tout cet activiste radical de la transparence qui est Assange. C'est pas, on n'est pas au même endroit sur la carte de la philosophie politique. Pour autant, aujourd'hui, voilà, je me pose toujours la question de savoir dans quelle mesure aujourd'hui la parole d'Edward Snowden est complètement libre. On est obligé de se poser la question, c'est-à-dire que, a fortiori depuis 2022, on l'a pas beaucoup entendu au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On va pas être plus royaliste que le roi, hein. Je pense que beaucoup de gens dans la même situation regardaient le doigt sur la couture du pantalon, mais forcément, ça interroge sur la liberté de son discours, ce qui était peut-être un peu moins vrai si on fait une gradation avant 2022.
Merci Olivier Tesquet.
Merci Steven.
Merci d'être venu dans l'atelier des médias. Je rappelle que tu es journaliste à la cellule enquête du magazine français Télérama, auteur de livres sur Wikileaks et Julian Assange, notamment Dans la tête de Julian Assange, paru en 2020 chez Actes Sud, qui est co-signé avec Guillaume Ledy. Nous voilà à la fin de l'atelier des médias, une émission de radio diffusée d'abord en podcast. Alors oui, prenons le temps. Chaque samedi, l'application d'écoute de votre choix accueille un épisode de cette émission. N'hésitez pas à mettre des étoiles ou poster un commentaire pour que l'atelier des médias soit mieux pris en compte par les algorithmes, donc davantage visible, et on le souhaite, plus écouté. Adèle Itel Elmadani a pour la première fois réalisé cette émission, je l'en remercie vivement. Pour toute remarque, écrivez-moi un mail à l'adresse atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.